Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Bruno Bayala.
Changement de bord politique. Jérôme Bougouma, dernier ministre en charge de la sécurité de Blaise Compaoré, et Issaka Kongo, ancien député, font partie des nouveaux militants du parti au pouvoir. Ils ont été accueillis hier samedi lors d'une assemblée générale du MPP à Manga. Élection du bureau de la CENI. La communauté musulmane ne veut plus du président sortant. Elle propose Adama Kafando comme nouveau représentant. L'élection qui est prévue demain lundi. Au Mali, des ressortissants chinois et mauritaniens ont été enlevés. Ils travaillaient pour des entreprises de construction à la frontière malienne et mauritanienne. Union nationale de supporters des étalons du Burkina, Ousseynou Touguma en est désormais le président. Opposé à Soumaïla Ilboudo, il a recueilli 66 voix contre 24 pour son challenger. Il remplace ainsi Ablassé Ouédraogo. Très bon après-midi à tous et à chacun. Hier samedi, au cours d'une assemblée générale, la Manga du parti au pouvoir, Simon Compaoré a annoncé que Jérôme Bougouma, dernier ministre en charge de la sécurité de Blaise Compaoré, et Issaka Kongo, ancien député en région, le MPP. Ils sont au total plus de 2000 militants démissionnaires du CDP qui ont été accueillis par le mouvement du peuple pour le progrès. Ces nouveaux militants se sont donc engagés à accompagner Roch Kabore à relever les défis qui s'imposent au Burkina Faso. Un débat qui fait suite à une correspondance adressée au président du Conseil pour la démocratie et le progrès en avril dernier. Élection du bureau de la CENI, l'opposition n'a pas à s'en faire quant à la proposition de la chef Eric Coutumier du Sao Naba comme président de la CENI. Selon le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, tous les mécanismes ont été pris en compte pour que la CENI garde toujours sa neutralité et son impartialité. Clément Savoie-Doro, que nous écoutons ici.
Je voudrais dire que l'impartialité ou la neutralité de la CENI ne repose pas sur l'opinion personnelle, parce que personne au grand jamais ne connaît l'opinion personnelle d'un autre à 100%. Par contre, il y a trois éléments essentiels à prendre en compte dans la question de l'impartialité de la CENI. Premièrement, c'est sa composition qui est tripartite. Ça, c'est le premier gage de la neutralité et de l'impartialité de la CENI. Le deuxième gage, c'est que pour ceux qui aspirent à être membres du bureau de la CENI, même s'ils étaient d'un parti, ils sont obligés de démissionner. S'ils étaient de l'organe dirigeant, ils sont obligés de démissionner. Ça, c'est une manière pour la loi de dire qu'on veut rappeler qu'ils doivent exercer avec une obligation de réserve. Le troisième gage, je dirais, c'est, j'allais dire, la probité de ses membres. Et la probité n'a rien à voir avec le fait qu'on ait une opinion politique. La probité veut dire que vous êtes tenu dans l'exercice de vos fonctions de refléter cette intégrité-là, cette obligation de réserve, cette neutralité.
Le ministre recommande par ailleurs à l'opposition, tout comme à la chefferie traditionnelle, de se concerter, car son ministère ne peut rien entreprendre à pas faire respecter le droit. Clément Savadro, que nous écoutons.
Non, mon ministère ne peut rien envisager en tant que ministère. Non. Nous, comme vous l'avez suivi, j'ai lancé un appel aux acteurs politiques. Mon appel, c'est d'abord en tout premier lieu adressé à l'opposition, en lui demandant d'essayer aussi de mettre de l'eau dans son vin. Mais mon appel, il est adressé en fait à tous les acteurs du jeu. Tous ceux dont la voix peut porter dans cette affaire, afin que, en lieu et place de position tranchée et radicale, on rentre dans un cycle de négociation pour qu'on puisse avancer vers une solution de sortie de crise vraiment acceptable pour tous. Sinon, au niveau de mon département, moi, je suis tenu de faire appliquer la loi dans sa rigueur.
Laissez donc les choses se faire, parce que ici, le Sao Naba, c'est son droit.
Non, mais je n'ai pas, comme je l'ai déjà dit, si je n'ai pas d'éléments de récusation, eh bien, moi, je continue le processus conformément à ce que la règle de droit a prescrite.
Clément Sawadoro était l'invité de votre émission Dimanche Politique de ce matin. Et dans une note estampillée confidentielle et largement partagée sur les réseaux sociaux, la communauté musulmane a annoncé au ministre de l'administration territoriale le remplacement de Newton Ahmed Barry. Elle la propose Adama Kafando au sein de la commission électorale, une annonce qui remet en cause la décision du Conseil des ministres, laquelle décision qui avait récemment validé le choix du président sortant. Et selon un expert des questions électorales, ce changement met le doute de l'élection prévue demain lundi. Il souligne que le Conseil des ministres devra d'abord valider le statut de ce nouveau commissaire avant toute mise en place du bureau. L'élection du président de la CNI, il faut le rappeler, a été reportée à deux reprises. Dans la région du Nord, ce sont deux enfants qui ont été tués dans l'explosion d'un engin explosif improvisé dans la matinée du samedi 17 juillet à Toulfé, dans la province du Loroum. Les deux enfants s'étaient remorqués sur une motocyclette et leurs deux roues ont heurté l'engin explosif qui était enfui dans le sol juste après la sortie du pont entre Toulfé et Rimassa. Les deux adolescents sont donc morts sur place. Et c'est justement au regard de cette insécurité que les 3 et 4 juillet dernier, l'opposition politique organisait 48 heures de marches de protestation. Mais pour des raisons organisationnelles, l'opposition politique dans la province du BAM n'a pas été au rendez-vous de cette marche pacifique. Hier samedi donc, des centaines de personnes ont marché dans les rues de Kongoussi pour toujours exiger du président du Faso les retours de la paix, la prise en charge conséquente des déplacés ainsi que des vivres du terrorisme. Inoussa Sawadoro, coordonnateur du mouvement Plateforme Minimale de l'opposition du BAM, s'exprime ici au micro de notre correspondant Pascal Sawadoro.
Nous voulons tous vivre. C'est pourquoi, dans un mouvement d'ensemble, nous, population de la province du BAM, sommes debout et exigeons que notre plateforme minimale d'action citoyenne soit satisfaite pour le bonheur de la population de la province du BAM, soutien à matériel de guerre adéquat à tous les VDP et les FDS, la prise en charge sans aucune distinction de tous les VDP, la prise en charge des veuves et orphelins des VDP et des FDS, la reprise des travaux de bitumage du tronçon Yargo-Gibo, l'amélioration des offres sanitaires dans la province du BAM, associer les VDP et les ESC dans la gestion des distributions des vivres et autres au PDI de la province du BAM, le retour des PDI dans leur village respectif dans un bref délai, et pour terminer, l'installation d'une base militaire à Cargo et à Rouge.
À l'instant, Inoussa Sawadoro, coordonnateur du mouvement Plateforme Minimale de l'opposition politique du BAM. Et suite à la montée brusque des eaux souterraines dans les galeries du site d'orpaillage du village de Bantara dans le département de Kamti le 15 juillet dernier, une certaine information relayée faisait état de ce que le sinistre avait fait de nombreuses victimes. Dans un communiqué signé du 16 juin 2021, le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Emmanuel Zongo, a indiqué que cette information n'est pas fondée et qu'aucun bilan chiffré n'est disponible. Pour l'instant, il a également indiqué que l'opération d'évacuation des eaux se poursuit. Le parti Le Soleil d'Avenir a effectué sa rentrée politique pour l'année 2021 ce samedi à Ouagadougou. Plusieurs sujets ont été abordés lors de ce rendez-vous. Il s'agit entre autres du renouvellement de la classe politique burkinabé et le manque de concordance politique. Les explications de Monique Soro.
Les défis de la classe politique burkinabé, tel est le thème de la rentrée politique du parti Le Soleil d'Avenir. Cette rencontre a permis au premier responsable du dit parti de pointer du doigt les défis à relever quant au renouvellement de la classe politique burkinabé et le manque de concordance politique du parti au pouvoir. Professeur Abdoulaye Soma, président du parti politique Le Soleil d'Avenir.
Avec les autres jeunes des partis politiques que vous connaissez, nous devons travailler à rassurer les anciens qui sont là, qu'on respecte leurs contributions et que nous sommes une offre politique tout à fait crédible et rassurante pour que lors des élections démocratiques, nous puissions reprendre le flambeau et continuer à faire ce qu'ils ont engagé. On connaît les limites des gens, mais on les respecte parce qu'ils ont quand même contribué à quelque chose. Mais maintenant, il faut qu'on se dise aussi la vérité. Game is over. Comme quelqu'un l'a dit, ça veut dire que le temps de cette génération-là, il faut qu'on constate dans la nation que ce temps-là est terminé.
À cette occasion, un gouvernement de 13 ministres a été présenté à la presse. Chacun des ministres sera déployé dans les 13 régions du Burkina si toutefois le Soleil d'Avenir accédait au pouvoir. professeur Abdoulaye Soma, président du parti politique Le Soleil d'Avenir.
Le Soleil d'Avenir a décidé de travailler avec les nouveaux acteurs, à ce que ces nouveaux acteurs se fédèrent. Tous les présidents de jeunes partis politiques que vous connaissez, les présidents jeunes des partis politiques, les jeunes des autres partis politiques et les jeunes partis politiques, Le Soleil d'Avenir a enchanté de les fédérer. Le Soleil d'Avenir a proposé dans son programme un gouvernement de concordance. Un gouvernement de concordance, ça veut dire que nous gérons le pays ensemble. Il faut que nous ayons une formule de gouvernement qui nous mette ensemble.
Quelques analystes politiques comme Siaka Koulibaly et Abdoul Karim Saïdou ont honoré la rencontre de leur présence.
Le cabinet de Maître Prosper Farama, assis à Ouara 2000, a pris feu dans l'après-midi de ce samedi 17 juillet. Le pire a été évité grâce à l'intervention de jeunes et du voisinage qui se sont fortement mobilisés en attendant l'arrivée des pompiers. Mais des dégâts matériels ont été enregistrés. On en sait plus avec Pierre Badelot.
Le cabinet de Maître Prosper Farama est parti en fumée ce samedi autour de 16h30. L'incendie a ravagé entièrement la salle de réunion et toute sa bibliothèque. Grâce aux riverains qui ont été à la tâche plus de 2 heures environ avant que les soldats du feu n'arrivent, quelques matériels ont été sauvés. Mouguerit Nana, arrivé sur les lieux un peu plus tôt, nous donne quelques détails.
Bon, ça a commencé dans les environs de 16h30. Quand on est arrivé, il y avait mes amis qui étaient devant, en train d'évacuer les documents du bureau. Mais arrivé au premier étage là, tout était incendié. Donc on ne pouvait plus faire sortir les effets venant de là-bas. Donc on a contourné dans un autre bureau, essayé de ramasser les documents pour faire sortir. Et puis le propriétaire du voisinage est venu. On est monté sur le toit pour essayer d'éteindre le feu par les stocks d'eau des baritanks. Les sapeurs sont venus aux environs de 18h30 en allant. Mais quand moi et puis mes amis, on est monté en haut là, on a fait de notre possible pour pouvoir éteindre le feu sur le toit. Donc on a pu éteindre le feu là-bas. Donc les sapeurs, ils sont venus, c'était dans les chambres là maintenant qu'ils ont essayé de...
Les dégâts sont énormes. Toute la bibliothèque et son contenu ont été détruites. Néanmoins, quelques matériels ont été récupérés grâce aux riverains. Maître Ambroise Farama salue ce geste de solidarité.
Je me reposais, donc le téléphone était fermé. Et dès mon réveil, j'ai reçu tout de suite donc des appels m'informant donc de l'incendie. Je me suis déporté immédiatement sur les lieux. Comme vous pouvez le constater, les dégâts sont énormes. Surtout la salle qui servait donc de lieu pour garder donc les dossiers et surtout de réunion de tout le personnel du cabinet. Cette salle-là, c'est ça que vous voyez donc derrière, juste derrière, qui est entièrement partie en feu. C'est vrai qu'un certain nombre de dossiers ont été sauvés. Il y a beaucoup de dégâts matériels, une reconnaissance aux voisins, aux parents et amis qui, en tout cas, dès qu'ils ont eu donc l'annonce, et qui ont accouru tout de suite. Et vous avez vu en tout cas comment est-ce que les jeunes étaient mobilisés et ils nous ont aidés à sécuriser le matériel, à sécuriser ce qui pouvait être encore sauvé. Vraiment, je leur dis merci.
Les causes de cet incendie qui a presque tout dévasté au cabinet de Maître Prosper Farama n'est pas encore déterminée. Aucune hypothèse n'est à exclure. La police scientifique était sur les lieux pour déterminer les causes de l'incendie.
Pierre Badolo, en entendant les causes de cet incendie, comme vous l'avez dit, c'est une frange de la population qui demande au gouvernement de meilleures conditions de vie. Coûts exorbitants des denrées alimentaires, des hydrocarbures, des factures d'eau, d'électricité, de foyers, bref, la vie chère semble atteindre son paroxysme au Burkina Faso. Une situation qui s'est fait de plus en plus ressentie à travers notamment la flambée des prix, les produits de grande consommation depuis quelques mois. Ce qui rend d'ailleurs difficile la vie chez des citoyens dans la ville de Sia. C'est le constat fait dans ce réseau. Reportage de Ndiaye Oudrogo.
Difficile de l'ignorer, mais la flambée des prix des denrées de première nécessité ne passe pas sous silence. Depuis quelques mois, les produits de grande consommation connaissent une hausse des prix et cela est répercuté sur le coût de la vie. Une situation que déplorent les citoyens lambda qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts.
Même les cadres aujourd'hui reconnaissent que la vie est chère. Quand tu prends le plat de 1000, ça va à 750 francs aujourd'hui. Quand tu as 9 bouches à nourrir, ce n'est pas facile.
La viande, avant on payait le kilo à 2000. Actuellement, le kilo, on a 3000 francs à Bobo ici. Et aussi le sucre, voilà, le kilo faisait 500. Actuellement, le kilo à 600 francs. Même le poisson, le kilo était à 1000 francs. Aujourd'hui, nous sommes à 1100 francs. Il n'y a pas ce jour où la population ne paye pas ce sucre, ne paye pas la viande. L'État doit subventionner. Nous payons les impôts. Sur un mois comme ça, on se retrouve à 6000 francs de surplus. La consommation électrique, l'eau. Donc, ça fait que la population suffoque.
Le ciment a augmenté deux fois. Ça faisait 4500. 4000 même pour les CPJ. Aujourd'hui, on se retrouve à 5000. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire.
Le panier de la ménagère souffre de cette surenchère. De 1500 francs, le prix de la tomate est passé à 2750 francs le seau. Pareil pour les autres condiments. Nous avons rencontré cette ménagère au marché des légumes, Désirée Dugbe.
Je vois que tout est devenu cher. C'est sauf oignon seulement qui est un peu bon. Si tu n'as pas au moins 3 000, tu ne peux pas bien manger. La tomate, il y avait pour 50, maintenant là, 200, 500.
L'insécurité et le Covid-19 en sont les principales raisons, selon plusieurs.
Ça s'explique. Ce qui rentre dans la production du ciment, pour les Burkina, par exemple, le clinker est importé, le gypse est importé. Tout est lié à une conjoncture internationale. Tant que les gens ne bougent pas, les choses n'évoluent pas.
Aujourd'hui, avec l'insécurité dans les amendes de culture, où on produisait beaucoup le maïs, les hommes d'armée non identifiés sont les populations de Kité. On voit de plus en plus de déplacés internes. Donc, qui va cultiver pour que nous puissions manger?
Le regard des populations est rivé vers les autorités pour sortir de l'ornière.
La protection et la sauvegarde de l'environnement font partie de la politique citoyenne du groupe AG, raison pour laquelle les agents de ce groupe, en compagnie de leur directeur général adjoint, ont procédé à un reboisement ce samedi à Ouagadougou. On en sait plus avec Régis Boni.
Sur une superficie d'un hectare, ce sont 400 plants composés de colatier et de caïcédra qui sont mis en terre. Sous la supervision technique de la Direction générale des eaux et forêts, les agents du groupe AG procèdent ainsi à leur deuxième opération de réhabilitation de la ceinture verte de Ouagadougou. Tant que nous aurons la force de reboiser et que Dieu nous donne cette force, nous reboiserons chaque année, laisse entendre Elie Elias, directeur général adjoint du groupe AGE.
C'est dans le cadre d'embellir la ville de Ouagadougou, de créer un poumon végétal, beaucoup d'oxygène pour la ville. On remercie la commune de Ouagadougou, la mairie, qui nous a donné cette opportunité de participer à la plantation et à contribuer avec notre modeste contribution pour compléter la ceinture verte de Ouagadougou. C'est un grand projet, mais si chacun met sa main, on arrivera bientôt.
Le troisième adjoint au maire de la ville de Ouagadougou trouve très belle cette initiative qui est à sa deuxième édition. Joseph Ouedraogo.
C'est une activité citoyenne que le groupe AGE a donné comme exemple, ce qui voudrait dire que nous appelons tous les citoyens de la capitale de Ouagadougou à s'investir dans ce sens pour rendre en fait Ouaga belle, Ouaga où il fait bon vivre ensemble. C'est cet appel que nous lançons à tous les citoyens de la commune de Ouagadougou.
C'est le 12 septembre 2020 que le groupe AGE avait procédé à sa première phase de réhabilitation de la ceinture verte en y plantant 400 pieds d'arbres. Ainsi, la ceinture verte, fortement dégradée, reprend peu à peu sa verdure.
Au Mali, des ressortissants chinois et mauritaniens ont été enlevés. Ils travaillaient pour des entreprises de bitumage de routes et de construction de ponts dans la région de Nara, localité située non loin de la frontière mauritanienne. Ces ressortissants travaillaient avec des employés originaires de plusieurs pays dont le Mali, la Chine, la Mauritanie et le Bénin. En Allemagne, le bilan des intempéries dévastatrices a encore grimpé samedi, atteignant au moins 156 morts dans le pays. Une annonce faite ce samedi également par la police locale dans un communiqué, ce qui porte à 183 le nombre de décès en Europe. Dans le seul état régional allemand de Rhénanie-Palatinat, la police locale a fait état de 110 morts dans un communiqué contre 98 dans le bilan précédent. Par ailleurs, une personne a péri lors de crues dans le sud de l'Allemagne où des pluies diluviennes sont aussi tombées hier samedi, rapporte l'AFP. Les secours sont toujours à la recherche de nombreux disparus après ces inondations sans précédent.
Omega Sport.
À présent, le tour d'horizon de l'actualité sportive avec Benabé Cabré.
Ousseini Touguma a été porté hier samedi à la tête de l'Union nationale des supporters des étalons, UNCE. Opposé à Somaïla Ilboudo, Touguma a recueilli 66 voix contre 24 pour son challenger. Vice-président de l'UNCE depuis 11 ans, Ousseini Touguma succède à Ablasse Yamouyogo. Le Al Ahly d'Égypte a remporté hier soir à Rabat la Ligue des champions africaines, la deuxième d'affilée et la dixième de son histoire. Face aux Sud-Africains de Kaiser Chiefs, les Égyptiens ont été sans pitié avec une victoire sans bavure, 3-0. Champion d'Afrique, le Al Ahly empoche 1,3 milliard millions de francs CFA ainsi qu'un ticket pour la Coupe du monde des clubs. La CAF a confirmé sa volonté de mettre en place une Super League africaine qui va réunir les meilleures équipes du continent africain. L'information a été donnée par le président de la CAF, Patrice Motsepe, vendredi dernier à l'issue d'une réunion du comité exécutif de la CAF à Rabat. Si le dirigeant n'a apporté aucune précision sur le format de la compétition, une nouvelle étape a en revanche été franchie avec la nomination du Mauritanien Amer Yahia, vice-président de la CAF, en tant que chargé de la création de la Super League africaine. Motsepe a par ailleurs garanti que cette compétition aurait des retombées vertueuses pour les 54 fédérations membres de la CAF. La CAF a également profité de ce rendez-vous pour apporter son soutien à la FIFA, qui a ouvert la porte à une organisation de la Coupe du Monde tous les 2 ans contre 4 actuellement. L'Afrique pourrait être la plus grande bénéficiaire d'un mondial tous les 2 ans, a glissé le président de la CAF, Patrice Motsepe. Mercato pour terminer, quelques jours après Sergio Ramos parti au Paris Saint-Germain, Raphaël Varane, 28 ans, devrait lui aussi quitter le Real Madrid. Désireux de changer d'air, le défenseur français qui refuse de prolonger son contrat arrivant à terme en juin 2022 se retrouve tout proche de Manchester United. Selon la presse espagnole, les deux clubs sont sur le point de trouver un accord à hauteur de 50 millions d'euros pour le transfert du champion du monde. Une belle affaire pour les deux parties.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne écoute radiophonique.
Radio Omega, l'info en direct.